Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un dernier extrait du roman de Dominique de Saint-Perne, Baron Blixen. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. La photo tremble entre les doigts du vieillard. Elle a été prise à Mombasa le 19 août 1931. Deux hommes et un enfant sur la coursive d'un navire. Ils sont un peu compassés face à l'objectif. Celui que j'identifie comme étant Jumma esquisse un sourire alors que Farah présente son visage habituel, sévère et surmonté d'un volumineux turban. L'enfant boude, quelques larmes restent accrochées à ses cils. Tête nue, un veston d'homme sur son corps frêle, il boude. Karen vient de lui apprendre qu'il n'embarquera pas avec elle, il ne l'accompagnera pas dans sa traversée vers l'Europe. Quand elle a distribué ses cadeaux d'adieu aux indigènes de sa plantation, elle a laissé le choix du sien à l'enfant. « Qu'est-ce que tu préfères, Tumbo? Que je te donne une vache ou venir vivre avec moi au Danemark ?» Il n'y a pas de plus grand miracle pour un Somali qu'une vache qui tomberait du ciel sans avoir eu à batailler ou marchander pour l'obtenir. Un chameau serait encore mieux. Tumbo avait choisi Karen. Cette proposition demeure un mystère pour moi, une cruauté. Aucune explication ne me convainc. Au moment où sa vie entière se défaisait, a-t-elle éprouvé le besoin de mesurer l'attachement que lui portait l'enfant? Ou voulait-elle lui montrer la profondeur du sien? Ou bien, un instant, rien qu'un instant, face au vide qu'il aspirait, a-t-elle cru possible d'emporter avec elle un fragment d'Afrique fait de chair et d'os? Moment de folie. Je refuse de l'imaginer, effleuré par l'idée que ce petit être libre, courant derrière ses chèvres dans les prairies du Gnong, puisse être plus heureux ailleurs que parmi les siens. Ultime tentative pour tromper le destin, reprendre la main. Tumbo, déçu, restant à quai, les miettes de son rêve éparpillées à ses pieds, telle est l'image que Karen emporta de son toto préféré. C'est cette image de lui qu'un demi-siècle plus tard, il tient entre ses doigts écartés. Ému, il siffle entre ses dents. Peu de dents. Tumbo est un vieil homme à présent. Il vit dans les faubourgs de Nairobi, chez l'un de ses fils, dans une maison au toit de tôle rouillé et aux murs bleus délavés. En descendant de la voiture, j'ai entrevu une bousculade de visages curieux derrière les fenêtres grillagées. Les petits cris d'excitation, qui fusaient, m'ont rappelé ceux des colibris du parc à Ruxtelldorn. Une silhouette massive est apparue sur le seuil, ramenant le calme. Le soleil éblouissant m'empêchait de distinguer les traits de l'homme, mais d'emblée on voyait l'effort qu'il s'était imposé pour porter une tenue impeccable. Pantalon à plis, cravate, veston, gilet, malgré la chaleur épouvantable. Il a levé une main en signe de bienvenue. L'autre tenait une canne. Il a avancé vers nous avec précaution. Je l'ai mieux vu. Sous un chèche rouge, un large sourire et des yeux qui pétillaient de plaisir. Un bon sourire. Celui de Tumbo, l'enfant au chèche et au ventre rond des photos, l'enfant chéri de Mogadi. L'actrice m'accompagne. J'aurais préféré être seule avec le vieil homme. Je me ferai toute petite, vous verrez, vous oublierez que je suis là. Comment résister à une femme dont le métier est de séduire? Elle aussi veut rencontrer un être que Karen, la sienne, celle du film, de l'époque coloniale, a aimé et peut-être marqué de son empreinte. Le temps presse. Les transformations du monde recouvrent peu à peu les traces vivantes du passé. Tumbo est là, rassasié d'années mais bien vivant. peut-être lirons-nous, imprimée dans l'iris du vieux Somali, une image de Karen connue de lui seul. Notre hôte nous a guidés jusqu'à une pièce sombre au volet mi-clos. Un sofa, un fauteuil à bascule, quelques chaises en formica. Le mode de vie occidental a rattrapé les enfants de Tumbo. Mon regard est aimanté par la grande table où l'on a jeté une nappe aux couleurs éclatantes. On dirait que toute la lumière de l'après-midi s'est concentrée dans ces fleurs géantes et ces pétales éblouissants. Une foule de gamins, aux crânes crépus ou couverts de tresses, nous attendait. Tumbo les a éparpillés d'un geste de sa canne en claquant de la langue. « Allez, allez, laissez-nous tranquilles !» Les hommes de la famille sont restés dans la pièce. Tumbo a pris place dans un rocking chair dont le bois craque à chaque balancement. Je lui ai tendu la photo. Il l'a gardée dans le creux de ses mains ouvertes, doigts écartés pour ne pas l'abîmer, et maintenant il la contemple en silence. Un soupir le libère du poids qui encombrait sa poitrine. Puis il me rend la photo et tire de sa poche un grand mouchoir, s'en tamponne les yeux et tout le visage. Un jeune homme approche qu'il saisit par la manche. « Ouroulou ! Ouroulou ! » Son arrière-petit-neveu sera notre traducteur, car Tumbo parle un anglais composé à 90% de Swahili. Ouroulou, lui, s'exprime dans un anglais fluide qu'il doit, nous dit-il, à ses études à l'université. Tumbo finit par articuler. « C'est un grand jour. Ça va aller. Ça va aller, nous rassure-t-il. Quand je vous vois, c'est comme si je la voyais devant moi. Et quand je commence à penser à elle, mes yeux pleurent. » Tout en me sentant misérable d'avoir si peu à lui offrir, je lui tends un petit pot qui a passé la douane, sans encombre, la bouture d'un rosier que Karen a planté dans son jardin danois, il y a de cela une éternité. Tumbo la porte à ses narines, la respire, yeux clos. Elle était ma mère, elle a veillé sur moi. Il a reposé la fleur avec précaution sur la table, comme on traite une offrande. Je n'étais pas là pour son enterrement, mais Dieu sait que mon cœur était là-bas, avec elle. J'ai prié Dieu pour qu'il l'emmène dans un bel endroit. Je lui explique que Karen repose désormais sur une colline de son jardin, sous une simple pierre tombale à l'ombre d'un vieux hêtre. J'en ai apporté une photographie qu'il regarde longuement. Je lui dis ce que je crois profondément. Elle a fini par rejoindre Farah, qui a agi comme il en avait l'habitude au temps de leur safari. Il est parti en éclaireur vers la région inconnue pour y dresser sa tente et l'attendre. Tumbo approuve d'un hochement de tête. Cela lui semble conforme à la haute idée qu'il a de ses vieux amis. J'éprouve le besoin de lui dire ce que peut-être il sait au fond de son cœur. Karen n'a cessé de penser à eux, n'osant les oublier une seule seconde, de crainte qu'ils s'échappent à jamais. Elle a tout tenté pour venir les retrouver, lui, Farah, Abdoulaye, 1000 projets. Construire un hôpital au pied du Gnong, faire un grand reportage pour un magazine et un pèlerinage à la Mecque en compagnie de Farah. Vous la connaissez, Tumbo? Rien ne l'arrêtait. Il a fallu des événements aussi puissants que la Seconde Guerre mondiale pour l'en empêcher. Puis la maladie qui l'a privé de ses forces. D'un claquement de langue chagrin, Tumbo exprime sa désapprobation. Ses coups portés au rêve de sa maîtresse devaient être féroces, épouvantables, dit-il, sinon elle n'aurait jamais renoncé. Il l'a vu, lui, Tumbo, mais aussi Juma, son père, et Kinanji, le vieux chef Kikuyu, et Ali, et bien d'autres gens, courir tout droit vers de grands feux qui menaçaient leur hutte ou la fabrique de café en poussant des cris terribles pour leur dire comment et où les éteindre, sans se soucier des flammes qui léchaient le bas de son pantalon. « Même Saïb a reçu les lettres ?» demande-t-il. Celles que son père, mais aussi Kamante, Abdoulaye et Farah faisaient écrire par l'écrivain public indien qui tenait boutique en plein air devant la poste et qui prétendait écrire l'anglais. Karen les a reçues. Elle lui laissait un goût amer, ce que je me garde de dire à Tumbo. Étrange missive, dictée en swahili, traduite dans un anglais aussi biscornu qu'approximatif, d'où la voix inimitable de ses compagnons africains était absente. Elle restait muette, ou presque. Karen les entendait lui chuchoter. « Tu nous as quittés de ton plein gré. Nous avons perdu ton amitié. Alors nous nous taisons, puisque c'est ce que tu désires. » Une jeune beauté entre chargée d'un plateau de cuivre qui paraît bien trop lourd pour ses bras frêles. Ses yeux bruns, mordorés, regardent l'actrice blonde à la dérobée. Tout Nairobi parle de cette femme, et la voilà assise dans le salon de son grand-père. La jeune fille disparaît aussi discrètement qu'elle est arrivée. L'odeur du thé à la cardamone embaume l'atmosphère. Elle nous aimait, quelle que soit notre tribu. Les Vakamba, les Kavirando, les Kikuyu, les Somalis, reprend Tumbo. D'une pichenette, il rectifie l'équilibre de son chèche qui s'obstine à glisser. Les balancements du fauteuil vont de plus belle. Les gens qui passaient n'arrivaient pas à croire que la ferme appartenait à Mzungu, parce que nos vaches et nos moutons broutaient où ils voulaient. C'était pareil à Ruxtellen. Elle disait que la terre, les oiseaux et les arbres ne lui appartenaient pas, ils appartenaient à Dieu. On l'aimait parce qu'elle pensait que nous étions tous comme elle. Que nous étions pareils. Il se tait, puis ses yeux se mettent à rire. Il y avait cette grosse horloge. Tous les vendredis, elle sonnait sans que personne la touche. Dong, dong, un bruit terrifiant. Moi, j'étais tout petit. Alors Karen me disait de ne pas la frapper avec mon bâton, sinon j'aurais affaire à elle. Tumbo parle très lentement. Parfois il s'interrompt, comme pour laisser au souvenir une chance de remonter jusqu'à lui. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, ouh, oh, toi, que nous dansions ensemble. Toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique en m'écrivant à ladyseusedemots@gmail.com. LADYSEUSEDEMOTS tout attaché @gmail.com. À bientôt.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.